Le prêche de Morenschild à Oswald et ses singeries théâtrales sur le porche, qui ne différaient pas beaucoup des simagrées sous la tente des prêcheurs évangélistes de droite qu'il vilipendait, à se dépoitrailler devant tout le monde, m'avait profondément troublé. J'avais espéré qu'en me donnant les moyens d'écouter une conversation à cœur ouvert entre les deux hommes, je pourrais progresser vers l'élimination de Morenschild en tant qu'agent de provocation réelle dans la tentative d'assassinat contre Walker, et donc dans celle contre Kennedy. J'avais obtenu la conversation à cœur ouvert, mais au lieu de les clarifier, ça n'avait fait que compliquer les choses. Un point cependant semblait clair. Il était temps de dire adieu et sans état d'âme à Mercedes Street. J'avais loué l'appartement du rez-de-chaussée du 214 West Neely et le 24 septembre, j'ai chargé mes quelques vêtements, mes livres et ma machine à écrire dans ma Ford Sunliner vieillissante et les ai embarqués pour Dallas. Les deux grosses femmes avaient laissé derrière elles une porcherie empestant la maladie. Je me suis chargé du nettoyage moi-même, en remerciant Dieu que le terrier de Hall ait débouché à une époque où les désodorisants en aérosol existaient. J'ai acheté un poste de télévision portable dans un vide-garage et l'ai planté sur le comptoir de la cuisine à côté de la gazinière, que mentalement j'avais baptisé « le reposoir de la Grèce antique ». Ainsi, tandis que je balayais, lessivais, récurais et pulvérisais, je pouvais suivre des feuilletons policiers comme « Les Incorruptibles » et des séries comme « K-54, Where Are You ?». Quand les cris et les martèlements de pieds des gamins à l'étage au-dessus s'arrêtaient pour la nuit, je me fourrais sous l'étoile et pionçais comme un mort, sans jamais faire un seul rêve. J'ai gardé ma bicoque de Mercedes Street sans être témoin de grand-chose du côté du 2703. Parfois, Marina collait June dans une poussette, encore un cadeau de son vieil admirateur George Bowie, et allait la promener jusqu'au parking de l'entrepôt et retour. L'après-midi après l'école, les petites sauteuses à la corde les accompagnaient souvent. Marina elle-même s'amusa à sauter deux ou trois fois en chantant en russe. De voir sa mère danser le pogo avec son halo de cheveux noirs voltigeant autour de sa tête faisait rire le bébé aux éclats. Les petites sauteuses à la corde riaient aussi. Marina ne s'en formalisait pas. Elle bavardait beaucoup avec elle et ne paraissait jamais irritée quand les petites hilares la corrigeaient. Elle avait plutôt l'air contente, en fait. Lee ne voulait pas qu'elle apprenne l'anglais, mais elle l'apprenait quand même. Tant mieux pour elle. Le 2 octobre 1962, je me suis réveillé dans le silence étrange de mon appartement de Neely Street. Pas de petits pieds galopant à l'étage, pas de jeune mère hurlant au plus âgé des deux de se dépêcher de se préparer pour l'école. Ils avaient décampé au beau milieu de la nuit. Je suis monté et j'ai essayé ma clé sur leur porte. Elle ne fonctionnait pas. Mais comme c'était un verrou à ressort, je l'ai facilement crocheté avec un cintre. J'ai visé une bibliothèque vide dans le salon. J'ai percé un petit trou dans le sol, branché ma seconde lampe trafiquée et fait passer le fil d'écoute par le trou jusqu'à mon appartement du dessous. Puis j'ai repoussé la bibliothèque par-dessus. Le micro fonctionnait bien, mais les bandes de l'astucieux petit magnétophone japonais ne tournaient que lorsque des aspirants locataires en visite dans l'appartement allumaient la lampe pour l'essayer. Tous des visiteurs, jamais des preneurs. Jusqu'à l'emménagement des Oswald, j'avais le 214 Neely Street tout à moi. Après la parade de cirque qu'avait été Mercedes Street, c'était un soulagement. Même si les petites sauteuses à la corde me manquaient, elles étaient mon cœur antique. Je dormais dans mon appartement de Dallas la nuit et regardais Marina promener le bébé à Fort Worth le jour. Alors que je m'occupais ainsi, une autre ligne de partage des eaux des années 60 approchait à mon insu. J'étais accaparé par les Oswald qui traversaient une nouvelle crise conjugale. Un jour de la deuxième semaine d'octobre, Lee rentra de bonne heure du travail. Marina était en train de promener June. Ils se parlèrent à l'entrée de l'allée, de l'autre côté de la rue. Vers la fin de la conversation, Marina demanda en anglais « Quoi veut dire virer ?» Il le lui expliqua en russe. Marina écarta les mains dans un geste d'impuissance et serra son mari dans ses bras. Lee l'embrassa sur la joue, puis prit le bébé dans la poussette. June rit lorsqu'il l'éleva au-dessus de sa tête, tendant ses petites mains pour lui attraper les cheveux. Ils rentrèrent chez eux ensemble. Heureuse petite famille, se serrant les coudes dans l'adversité. Le calme régna jusqu'à 17 heures. Je m'apprêtais à rentrer à Neely Street quand j'ai avisé Marguerite Oswald s'en venant depuis l'arrêt de bus de Winscott Road. Voilà les ennuis qui arrivent, me suis-je dit, et je ne me trompais pas. Une fois de plus, Marguerite évita la marche, toujours pas réparée. Une fois de plus, elle entra sans frapper, et le feu d'artifice a immédiatement commencé. C'était une soirée chaude, et les fenêtres de leur appartement étaient ouvertes. Pas besoin de se fatiguer à brancher le micro longue portée. Lee et sa mère gueulaient à plein poumon. En fait, semblait-il, Lee n'avait pas été licencié de son boulot chez Leslie Welding. Il s'était tout bonnement tiré. Le patron, qu'il cherchait parce qu'ils étaient en pénurie de main-d'œuvre, avait appelé Vada Oswald. Ayant fait chou blanc auprès de la femme du frère, il avait appelé la mère. « J'ai menti pour toi, Lee !» cria Marguerite. « J'ai dit que tu avais la grippe !» « Pourquoi est-ce que tu m'obliges toujours à mentir pour toi ?»« Je t'oblige à rien du tout !» cria Lee à son tour. Ils s'affrontaient face à face dans le salon. « Je t'oblige à rien du tout, et tu le fais quand même !»« Lee, comment vas-tu faire vivre ta famille ? Il te faut un emploi !»« Oh, je trouverai un emploi. T'inquiète pas pour ça, ma. »« Et où ?»« J'en sais rien, mais... » « Oh, Lee, comment vas-tu payer le loyer ?»« Elle a beaucoup d'amis. »
Il tourna le pouce vers Marina, qui tiqua.
« Ils sont pas bons à grand-chose, mais ils seront bons à ça. »« Va-t'en d'ici, ma. Rentre à la maison. Laisse-moi respirer. »
Marguerite se précipita vers le parc.
« Et d'où ça sort, ça ?»« Les amis dont je t'ai parlé. La moitié d'entre eux sont riches. » Et les autres essayent de le devenir. Ils aiment parler avec Rina.
Lee a ricané.
Les plus vieux aiment lui reluquer les seins. Lee !
Voix choquée, mais... mine réjouie.
Mamochka jubilait-elle d'entendre de la fureur dans la voix de son fils ? Allez, ma ! Fiche-nous un peu la paix ! C'est elle que les hommes qui font des cadeaux veulent toujours être payés de retour ? Le sait-elle, Lee ? Fous le camp !
Lee brandissait les poings, dansait presque de rage impuissante. Marguerite sourit.
Tu es perturbé ? Bien sûr que tu es perturbé. Je reviendrai quand tu auras un peu retrouvé le contrôle de toi-même. Et je vous aiderai. Je suis toujours là pour vous aider.
Puis subitement, elle se jeta sur Marina et le bébé. On aurait dit qu'elle voulait les attaquer. Elle couvrit le visage de June de baisers, puis elle traversa la pièce d'un pas martial. À la porte, elle se retourna et désigna le parc du doigt.
« Dis-lui d'astiquer ça comme il faut, Lee. Les trucs que les gens donnent sont toujours pleins de microbes. Si le bébé tombe malade, vous n'aurez pas les moyens de faire venir le docteur. »« Ma, dégage !»« C'est ce que je fais. » »«
Tranquille comme Baptiste. » Elle frétilla des doigts, comme une petite fille qui dit au revoir et s'en fut. Marina s'approcha de Lee, tenant le bébé devant elle comme un bouclier. Ils parlèrent, puis ils crièrent.
Envolée, la belle solidarité familiale. Marguerite y avait veillé.
Lee prit sa fille, la berça dans le creux de son bras, puis, absolument sans prévenir, balança un coup de poing dans le visage de sa femme. Marina tomba, saignant de la bouche et du nez et pleurant bruyamment. Lee la regarda. Le bébé aussi pleurait. Lee caressa les fins cheveux de June, lui piqua un baiser sur la joue, la berça encore. Se remettant péniblement sur ses pieds, Marina reparut à ma vue. Lee lui flanqua un coup de pied dans les côtes et elle retomba. Je ne voyais plus que le halo de ses cheveux.
« Quitte-le !» me disais-je, même si je savais qu'elle n'en ferait rien. « Prends le bébé et quitte-le ! Va retrouver George Bowie ! Réchauffe son lit s'il le faut, mais dépêche-toi de t'éloigner de ce monstre malingre affligé d'une mère !»
Mais ce fut Lee qui la quitta, du moins temporairement. Je ne l'ai jamais revue dans Mercedes Street. Ce fut leur première séparation. Lee partit chercher du travail à Dallas. Je ne sais pas où il logea. Au YMCA, d'après les notes de Hall, mais cela se révéla inexact. Peut-être trouva-t-il une chambre dans une pension de famille économique. Ça ne me concernait pas. Je savais qu'ils débarqueraient ensemble pour louer l'appartement au-dessus du mien, et pour le moment, j'en avais ma claque de lui. Quel répit de ne plus avoir à écouter sa voix ralentir, rabâchant ses « oui, je sais » à longueur de conversation. Grâce à George Bowie, Marina retomba sur ses pieds. Peu de temps après la visite de Marguerite et le départ de Lee, Bowie et un autre homme arrivèrent à bord d'une camionnette Chevrolet et la déménagèrent. Mère et fille quittèrent le 2703 Mercedes Street, installés sur le plateau de la camionnette. La valise rose que Marina avait rapportée de Russie avait été garnie de couvertures et June dormait à poings fermés dans ce nid de fortune. Quand le camion commença à rouler, Marina posa une main sécurisante sur la poitrine de sa fille. Les petites sauteuses à la corde regardaient de tous leurs yeux et Marina leur fit au revoir de la main. Elles lui rendirent son geste. J'avais trouvé l'adresse de George de Morenchild dans les pages blanches de Dallas et je l'ai suivi à plusieurs reprises. J'étais curieux de savoir quelles pouvaient être ses fréquentations. Quoique j'aurais été bien en peine de différencier un agent de la CIA d'un sbire de la mafia Lansky ou de tout autre conspirateur éventuel. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'a rencontré personne qui m'ait paru suspect. Il allait travailler, il allait au country club de Dallas jouer au tennis ou nager avec sa femme, ils allaient ensemble dans des clubs de striptease. Il ne taquinait pas les filles, mais avait un penchant pour le pelotage des seins et des fesses de sa femme en public. Ça ne semblait pas la déranger. Par deux fois, il a eu une entrevue avec Lee. La première, c'était au club de striptease favori de Morenchild. Lee semblait mal à l'aise dans ce cadre et ils ne s'y attardèrent pas longtemps. La seconde, ils déjeunèrent dans un coffee shop de Broader Street. Ils y restèrent jusqu'à presque 14 heures, à discuter sans fin autour d'une tasse de café. Lee fit mine de se lever, se ravisa, commanda autre chose. Quand la serveuse lui apporta une part de tarte, il lui tendit quelque chose qu'elle mit dans la poche de son tablier après y avoir jeté un rapide coup d'œil. Au lieu de les suivre quand ils partirent, j'allai trouver la serveuse pour lui demander si je pouvais voir ce que le jeune homme lui avait donné.
« Vous pouvez le garder !» me dit-elle.
Et elle me tendit un tract en papier jaune dont le titre était imprimé en gros caractères noirs de tabloïd.
« Non-intervention à Cuba !»
Le texte exhortait les personnes intéressées à rejoindre la branche Dallas-Fort Worth de cette admirable association.
« Ne laissez pas l'oncle Sam vous duper. Écrivez boîte postale 1919 pour plus de détails sur les prochaines réunions. »
« De quoi ont-ils parlé ? » lui ai-je demandé.
« Vous êtes flic ? » ?»«
Non, j'arrose mieux que les flics, » lui ai-je dit. Et je lui ai tendu un billet de $5.
« De ça ?» m'a-t-elle dit en montrant du doigt le tract que Oswald avait sans doute imprimé sur son nouveau lieu de travail. « Cuba. Oh, comme si j'en avais quelque chose à foutre. »
Mais moins d'une semaine plus tard, le soir du 22 octobre, le président Kennedy aussi parlait de Cuba. Et à ce moment-là, plus personne n'aurait prétendu s'en foutre.